soir, donc, nous continuons à examiner le début du premier livre de Samuel. Et en fait, c'est la fin de cette série qu'on poursuivra peut-être l'an prochain, mais on va au minimum faire une pause pendant l'été. Alors, on l'a déjà dit, ces textes nous désarçonnent quelque peu. Pour ceux qui étaient à la semaine dernière, c'était peut-être particulièrement le cas. Le message était très bien, mais le texte, surprenant. C'est pas moi qui prêchais, hein, c'est pour ça que je le dis. Il faut dire qu'ils se situent, ces textes que nous lisons dans ce livre, dans un contexte qui est très éloigné du nôtre. Il faut bien le reconnaître. Or, il faut bien saisir que c'est le même Dieu qui, aujourd'hui encore, s'adresse à nous et agit dans notre contexte. Donc, le contexte a changé, mais Dieu, lui, n'a pas changé. Et c'est parce que Dieu est le même aujourd'hui qu'à l'époque de Samuel que nous pouvons tirer des leçons pour nous de ce qui s'est passé à l'époque. Et plus précisément, je voudrais vous suggérer qu'on peut discerner dans le texte ce soir, que je vais lire dans un instant, un parcours en trois étapes qui correspond à un renouveau spirituel. Et j'imagine qu'il y a sans doute des personnes ce soir qui auraient bien besoin d'un renouveau spirituel, peut-être même tous. Alors ces trois étapes, nous avons besoin de les vivre pour rencontrer Dieu, si ce n'est pas encore fait. Et si nous le connaissons déjà, nous devons en quelque sorte les répéter, les réassimiler à chaque fois que nous nous éloignons de Dieu pour retrouver une pleine paix et une pleine joie dans notre relation avec lui. Mais tout d'abord, donc, je vais lire le texte qui se trouve à la page 270 dans les Bibles bleues. C'est 1 Samuel chapitre 7, l'ensemble du chapitre. 1 Samuel 7. Les hommes de Kiriath-Yéharim vinrent et firent monter le coffre du Seigneur. Ils l'emportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent Éléazar, son fils, pour garder le coffre du Seigneur. Il s'était passé bien des jours, 20 ans, depuis le jour où le coffre avait été installé à Kiriath-Yéharim. Alors toute la maison d'Israël se mit à gémir devant le Seigneur. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, supprimez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Les Israélites supprimèrent donc les Baals et les Astartés et ils servirent le Seigneur seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël au Mitzpah, je prierai le Seigneur pour vous. » Ils se rassemblèrent au Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur. Ils jeûnèrent en ce jour-là. C'est là qu'ils dirent, « Nous avons péché contre le Seigneur. » Samuel était juge des Israélites au Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés au Mitzpah et les princes de la confédération des Philistins partirent à l'attaque d'Israël. Les Israélites l'apprirent et ils eurent peur des Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, crie pour nous vers le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste au Seigneur. Il cria vers le Seigneur pour Israël et le Seigneur lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour faire la guerre à Israël. Ce jour-là, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit sur les Philistins et les frappa de panique. Ils furent battus par Israël. Les hommes d'Israël sortirent du Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre le Mitzpah et là-dedans, et il l'appela du nom d'Eben-Ézer, pierre du secours, en disant, « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre les Philistins pendant tous les jours de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël revinrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les délivra de la main des Philistins et il y eut la paix entre Israël et les Amorites. Samuel fut juge en Israël tous les jours de sa vie. Il allait d'année en année faire un circuit par Bethel, le Gilgal et le Mitzpah. Il était juge d'Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison. Là aussi, il était juge d'Israël. Il bâtit là un autel pour le Seigneur. J'ai parlé de trois étapes d'un renouveau spirituel. Ces trois étapes sont, je pense, les suivantes. Premièrement, la repentance, puis l'intercession, et enfin, la reconnaissance. Et donc, on va voir ces étapes et voir dans quelle mesure elles s'appliquent également à nous. Alors dans ce chapitre, on constate d'abord le comeback de Samuel dans ce récit, au verset 3. Alors on n'avait plus entendu parler de lui depuis le début du chapitre 4. Le narrateur, à ce moment-là, nous avait dit que Samuel avait un rôle de prophète en Israël. Il a donc pour rôle de rappeler la loi de Dieu et d'annoncer le verdict de Dieu sur la conduite du peuple. Et c'est assez significatif de voir que tous les récits qui se sont déroulés entre la dernière mention de Samuel et son retour dans le récit ici, tous ces récits ont été particulièrement sombres. Guerre, superstition, fléau, je n'y reviens pas en détail, on a bien vu ça les semaines précédentes. Mais au début du chapitre 7, on a le sentiment d'une relative accalmie dans les malheurs qui arrivent au peuple. Une relative accalmie. Le verset 2 nous indique que ça fait 20 ans que le coffre du Seigneur, ce coffre symbolique qui représente la présence de Dieu, est au même endroit. On avait vu par le passé à quel point ce coffre du Seigneur avait parcouru, avait été apporté d'endroit en endroit, il y avait eu des problèmes à chaque fois. Or ici, ça fait 20 ans qu'il est au même endroit et il semblerait qu'il n'y a plus eu de problème à ce sujet. Donc déjà un premier signe d'une certaine stabilité. Est-ce que la situation du peuple est bonne pour autant? Au contraire, on voit au verset 2 que la maison d'Israël se mit à gémir devant le Seigneur. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils gémissent devant le Seigneur? Bien, la fin du verset 3 sans doute nous donne une indication. Samuel interpelle le peuple en disant « Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. » Les Philistins, on l'a vu les semaines précédentes, c'est le peuple voisin en fait, contre lequel il y avait des guerres constantes pendant toute une période. Et manifestement là, il y a encore un problème avec les Philistins. Alors, on sait que 20 ans se sont écoulés. Est-ce que pendant ces 20 ans, il y a eu une sorte de guérilla permanente? C'est tout à fait possible, sans qu'il y ait vraiment de guerre ouverte. Ou bien est-ce qu'il y a eu un retour récent de la menace ennemie après 20 ans d'une certaine accalmie? On peut se poser la question. Mais ce n'est pas le plus grave dans ce texte. La situation, on peut dire, géopolitique n'est pas ce qui est le plus inquiétant. On a un aperçu de la situation spirituelle déplorable du peuple d'Israël. Au verset 3, Samuel invite le peuple à supprimer du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul. Les Astartés, il y a certaines discussions là-dessus, ce n'est pas la peine d'aller en détail dedans, mais c'était sans doute des lieux et des modes, des poteaux par exemple cultuels qui étaient utilisés comme des autels pour adorer les dieux. D'autres pensent que c'était des divinités. Peu importe, on voit bien ce dont il est question d'idolâtrie. Ça laisse entendre en tout cas que pendant les 20 années qui ont précédé, le peuple d'Israël, tout en reconnaissant peut-être superficiellement le Seigneur, Yahvé, comme son Dieu, a également collectionné un petit peu les divinités par ailleurs. Peut-être qu'ils se disaient comme ça, ils étaient couverts, ils avaient leur Dieu, puis pourquoi pas aussi adorer les dieux des étrangers. Alors il faut bien comprendre que servir un seul Dieu, c'était tellement à contre-courant dans le contexte de l'époque, que les Israélites se sont laissés influencer par les autres peuples qui avaient chacun toute une collection d'idoles fétiches. En disant cela, ce n'est pas pour les excuser, mais c'est pour expliquer le contexte dans lequel cela a eu lieu. Et ce contexte nous aide à comprendre cette situation difficile qui nous est dépeinte ici au début du chapitre 7. Entre conflit militaire d'une part, égarement spirituel d'autre part, le peuple va mal. Et il va finir par comprendre, semble-t-il, que c'est auprès du seul vrai Dieu qu'il peut trouver les ressources d'un nouveau départ. Et donc les Israélites se mettent à gémir devant le Seigneur. Alors on peut se demander, est-ce que c'est plutôt de simples plaintes ou est-ce que c'est un appel à l'aide? Dans le contexte, on a plutôt l'impression que c'est cela, c'est un appel à l'aide. C'est déjà le premier pas d'un retour vers Dieu, une expression de leur désir de revenir à Dieu. Et le retour de Samuel dans le récit semble correspondre à un véritable tournant dans la situation du peuple, un tournant qui est celui de la repentance. Alors, s'il y a bien un mot qui n'est pas à la mode, c'est celui-là. Mais il faut comprendre que dans la Bible, la repentance, c'est tout simplement un demi-tour de la vie. c'est le fait de reconnaître qu'on s'est égaré sur une mauvaise voie et qu'on a besoin de faire demi-tour et de venir, peut-être pour la première fois, ou de revenir à Dieu. Et donc au verset 3 de notre texte, Samuel, en toute simplicité, invite le peuple à se débarrasser de ces faux dieux qui le distrayaient de sa relation avec le Dieu véritable. Et c'est ce qu'ils vont faire, et le verset 4 nous le confirme, les Israélites supprimèrent les Baals et les Astartés, et ils servirent le Seigneur seul. Au verset 6, ils se rassemblent et ils accomplissent un acte symbolique, celui de puiser de l'eau et de répandre cette eau par terre, symboliquement devant Dieu. Vraisemblablement, il s'agissait d'un acte par lequel on montre qu'on donne de soi, on se livre à Dieu, on répand de soi-même en quelque sorte et on reconnaît sa majesté. Le jeûne, lui, était associé à la tristesse face notamment à son propre péché. Et donc c'est dans ce sens que les Israélites jeûnaient. Et tout cela montre qu'on est bien dans le cadre d'une repentance du peuple. Ce que je trouve assez intéressant dans ce récit, c'est que la repentance, finalement, elle n'est pas intervenue dans le cadre d'une crise énorme. Les crises majeures, elles ont eu lieu 20 ans plus tôt. Et apparemment, elles n'ont pas changé fondamentalement l'attitude spirituelle du peuple. Mais c'est plus tard, dans une situation plutôt de lassitude, face à la futilité de leur situation, que les Israélites comprennent enfin qu'ils doivent revenir à Dieu et que ça implique de se débarrasser de tout ce qui les éloigne de Dieu. Et je crois que souvent, pour nous aussi, ce n'est pas forcément quand les choses vont très mal que nous nous éloignons de Dieu. Parfois, c'est d'ailleurs le contraire. Quand les choses vont mal, on se rapproche de lui. Mais c'est plutôt dans, peut-être quand le train-train quotidien nous donne l'illusion que nous pouvons contrôler notre vie sans lui. Et on a peut-être dans ces cas-là la tentation justement de se tourner vers les faux dieux de notre époque. Et nous avons tendance à créer nous aussi une quantité de faux dieux, en tout cas notre civilisation, notre culture le fait. Des faux dieux qu'on n'appelle plus Astarté, Baal ou Dagon, mais plus typiquement, alors ça peut être le dieu épanouissement personnel, peut-être le dieu sécurité financière, prestige professionnel, liberté sexuelle. On pourrait trouver encore beaucoup d'autres exemples. Une idole, finalement, qu'est-ce que c'est ? Fondamentalement, essentiellement, c'est quelque chose sur quoi, ou éventuellement quelqu'un sur qui, nous projetons toutes nos aspirations, toutes nos espérances, le sens même de notre identité et de notre vie. On commence à le trouver dans cette chose ou éventuellement cette personne. Toutes ces choses qui, dans notre esprit, font de nous ce que nous sommes, sont nos idoles. Alors que la Bible nous affirme que notre identité profonde, c'est en Dieu et en lui seul que nous pouvons la trouver. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous caractérisent, on est d'accord là-dessus. Mais les choses dans lesquelles nous trouvons profondément notre identité nous détournent de Dieu, car c'est en lui seul que notre identité se trouve. Et donc il doit y avoir dans la vie de chacun d'entre nous un moment clé où on fait demi-tour par rapport à une vie dont l'axe va inexorablement dans la direction opposée à Dieu. Et même quand ce demi-tour a déjà eu lieu, d'une façon peut-être un peu différente, mais on a régulièrement besoin d'une remise en question par laquelle on se replace sur l'axe de la vie avec Dieu, après s'en être un peu ou parfois beaucoup éloigné. Et donc, comme pour les Israélites, ce demi-tour à laquelle nous sommes appelés, cette repentance, ce n'est pas quelque chose qui est purement philosophique, c'est absolument pas quelque chose qui serait passif, mais au contraire, c'est quelque chose d'actif. Et c'est pas non plus une auto-flagellation, c'est un peu ce à quoi on pense dans notre culture. Quand on entend repentance, on pense auto-flagellation, on se roule dans la poussière, etc. C'est pas ça dont il est question ici. C'est oui, une véritable reconnaissance de notre défaillance devant Dieu, mais une reconnaissance qui nous pousse à l'action et non pas au désespoir. Donc c'est une résolution à changer, à vivre autrement. Et je voudrais lancer un appel ce soir, et c'est un appel qu'on lance régulièrement, à ceux et celles qui ont vécu pour un temps, ou peut-être même toute leur vie jusqu'ici, loin de Dieu, tout simplement. Ou peut-être que vous croyez en Dieu d'une certaine façon, mais ça se résume plutôt à une pratique religieuse, pas une véritable relation avec le Créateur. Je voudrais vous supplier de reconnaître comme les Israélites, qu'il vous faut vous débarrasser de vos faux dieux pour vous tourner vers le Dieu vivant. Et je m'adresse ce rappel à moi aussi. Se débarrasser de ces faux dieux, ça ne veut pas dire abandonner ce qui fait notre quotidien, même s'il y a des choses certainement à abandonner, mais c'est plutôt placer tout ce qui fait notre quotidien sous l'autorité de Dieu et à la lumière de sa parole, discerner ce qui doit changer. Et en passant, l'un des rôles essentiels de l'Église, c'est que c'est une communauté dans laquelle nous nous aidons les uns les autres à faire cela, parce qu'on a du mal à le faire seul. Mais nous nous aidons les uns les autres à discerner ce qui est bon et juste à la lumière de la parole de Dieu. D'où l'importance de ne pas négliger la vie d'Église. Donc la repentance, c'est un point de départ essentiel. On va examiner maintenant ce qui a été la deuxième étape du renouveau spirituel des Israélites. Un mot qu'on n'entend peut-être pas tous les jours, l'intercession. Alors d'après le dictionnaire, l'intercession, c'est solliciter en faveur de quelqu'un. Solliciter quelqu'un en faveur de quelqu'un. Alors un exemple tout bête, l'intercession, c'est ce qui se passe, par exemple, si, admettons que vous voulez faire un stage dans une entreprise et vous avez votre meilleur ami, qu'on appellera Stevie, voilà, votre meilleur ami qui est l'assistant personnel du patron de cette entreprise. Et donc vous allez l'appeler, vous allez appeler Stevie, vous allez lui demander s'il peut plaider votre cause auprès de son responsable. Donc la logique, c'est que le patron ne vous connaît pas, en revanche il connaît Stevie. Et vous, vous ne connaissez pas le patron, mais vous connaissez Stevie. Et donc il joue les intermédiaires. L'intercession dans la vie de tous les jours, c'est cela. On pourrait trouver plein d'autres exemples. Dans un sens, de façon un peu analogue, c'est ce que fait Samuel ici. Bien sûr, il y a une différence fondamentale entre l'intercession auprès d'un homme et l'intercession auprès de Dieu. Parce que quand on intercède auprès d'un homme ou d'une femme, on le fait auprès de quelqu'un qui est lui-même faillible, qui a peut-être aussi, sans doute, des torts dans la situation donnée, et dont les réactions ne sont pas forcément prévisibles et pas forcément louables. Par contre, quand on intercède auprès de Dieu, on le fait auprès de quelqu'un qui décide toujours ce qu'il y a de meilleur. Donc Samuel a joué ici le rôle d'intercesseur entre Dieu et le peuple. Et c'est un rôle auquel Dieu l'a appelé, et ça on l'avait vu les semaines précédentes. On voit au verset 3 et au verset 9 deux fonctions que Samuel a assumées pour jouer ce rôle d'intercesseur. On pourrait dire deux facettes de ce rôle. Il y a la fonction d'un prophète et la fonction d'un prêtre. Le rôle prophétique, on le voit au verset 3. Samuel donc rappelle la loi de Dieu et il l'applique à la situation des Israélites. Il leur rappelle ce qu'ils devraient déjà savoir, en fait, et ce qu'ils savent peut-être déjà. Et un peu plus loin, au verset 9, on voit qu'il joue le rôle d'un prêtre, c'est-à-dire fondamentalement d'un médiateur entre Dieu et le peuple. Et il le fait de deux manières. Il prie en faveur du peuple, il intercède, il sollicite Dieu en faveur du peuple. Verset 9, et c'est écrit dans des termes très vifs, il cria vers le Seigneur pour Israël. Et le Seigneur lui répondit. Donc on imagine toute l'émotion, toute la vigueur que Samuel a mis dans sa prière. Il le fait également en accomplissant un sacrifice qui exprime, un sacrifice d'un animal, donc d'un agneau, qui exprime la réparation symbolique du péché commis. Verset 9, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste au Seigneur. Ce verset doit nous rappeler que le fait de s'approcher d'un Dieu parfaitement saint n'est pas quelque chose qui va de soi. Les Israélites, d'ailleurs, ont bien compris qu'il leur faut un intercesseur. Il leur faut quelqu'un qui plaide leur cause auprès de Dieu. Et ils font, à juste titre, appel à Samuel, qui a été appelé par Dieu lui-même à un rôle de leadership spirituel, si on peut dire, auprès de ce peuple. Et le résultat, c'est que la relation d'alliance entre Dieu et son peuple a été rétablie. Verset 10, « Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour faire la guerre à Israël. » Il manquait plus qu'eux, les voilà qui arrivent. « Ce jour-là, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit sur les Philistins et les frappa de panique. Ils furent battus par Israël. » Si les Israélites ont pu vaincre les Philistins, c'est parce que Dieu avait décidé de rétablir en leur faveur les privilèges de leur alliance avec lui, c'est-à-dire d'une relation privilégiée avec lui. Tant qu'ils traitaient Dieu comme un porte-bonheur, un Dieu fait à leur image, qui allait leur garantir la victoire, quel que soit leur comportement, ben on a vu dans les épisodes précédents qu'ils ne recueillaient que le malheur. Mais désormais, alors qu'ils sont revenus à une confiance placée exclusivement en Dieu, ils goûtent à nouveau à une relation privilégiée avec lui. Pourtant, Samuel n'était pas un intercesseur parfait. C'était un homme, ce n'était pas Dieu. Et s'il a pu intercéder en faveur du peuple, ça ne pouvait pas empêcher le peuple de retomber dans ses travers, et la suite de l'histoire le montrera malheureusement. Donc l'intercession a été la deuxième étape du réveil spirituel des Israélites. Et la question de l'intercession se pose pour nous. Si nous nous éloignons de Dieu, ou pire encore, si nous avons jusqu'ici vécu toujours sans être en relation avec Dieu, qui intercédera pour nous auprès de lui? Et dans la quasi-totalité des systèmes religieux, il faut faire quelque chose pour compenser le mal que nous avons fait et pour pouvoir mériter une relation avec Dieu. Donc on se fait un peu soi-même ses propres intercesseurs. Le Nouveau Testament, la Bible entière en définitive, proclame une réponse radicalement différente à cette question. Qui intercédera pour nous? Il nous révèle que les intercesseurs humains qu'on trouve dans l'Ancien Testament n'ont fait que préfigurer imparfaitement un intercesseur parfait qui est venu plus tard. Et si cet intercesseur est parfait, c'est parce qu'il s'agit en fait de Dieu lui-même en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, sur le mystère de l'incarnation, de la Trinité. Je pense qu'il y aura d'autres occasions pour en parler. Mais je me contenterai de dire ce soir ce que le Nouveau Testament proclame, c'est que connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Recevoir le pardon et la réconciliation par Jésus-Christ, c'est recevoir le pardon et la réconciliation de Dieu. Et dans le récit de ce soir, on voit que Samuel, pour exprimer la repentance du peuple, il accomplit un sacrifice animal. Et le sens de ce sacrifice, c'est que l'animal est la victime substitutive, expiatoire, si on veut dire, qui subit symboliquement la peine que méritait la faute du peuple, c'est-à-dire la mort. Mais on est bien sûr purement dans le symbole, parce que la véritable substitution, elle a eu des siècles plus tard, quand Jésus-Christ a lui-même accompli le sacrifice définitif et parfait, lorsqu'il s'est lui-même fait victime substitutive pour que nous soyons acquittés devant Dieu de notre faute. Et c'est ce sacrifice qui fait que Jésus est aujourd'hui notre intercesseur permanent auprès de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Jésus-Christ intercède pour nous? Je ne pense pas que ça veuille dire que dès qu'on commet une faute, il faut que Jésus aille se dépêcher d'aller plaider notre cause devant Dieu. Je ne pense pas que ça veuille dire ça. Je pense que ça veut dire quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est que puisque notre vie appartient à Jésus-Christ, si nous avons reçu son salut, si donc sa justice est mise à notre crédit, mise en notre faveur alors que nous ne le méritons pas, eh bien la simple présence éternelle de Jésus-Christ auprès du Père est synonyme pour nous d'une intercession permanente. C'est un peu comme si on avait un badge sur nous qui disait « bénéficiaire permanent du pardon de Jésus-Christ ». Et le simple fait que Jésus soit en présence du Père et qu'il ait accompli ce sacrifice pour nous, ça vaut intercession permanente. Il nous arrive, comme les Israélites, de nous éloigner de Dieu. Mais en envoyant Jésus pour nous délivrer de notre propre égarement, Dieu s'est éternellement approché de nous lui-même. Et par conséquent, la relation d'alliance que nous avons avec lui ne dépend plus de nos succès ou de nos échecs, mais est garantie par lui-même et pour toujours. Et donc ce qui est en jeu, et là je parle pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, ce qui est en jeu si nous nous éloignons de Dieu, ce n'est plus notre appartenance fondamentale à lui, mais c'est la joie et la paix qui se trouvent dans une relation sereine avec lui. On peut facilement gâcher cette joie pour un temps, en nous éloignant de Dieu. Et c'est pour cela que même dans la vie chrétienne, nous avons besoin de revenir encore et encore à Dieu, de lui apporter tout ce qui nous appartient, de lui demander pardon, comme on l'a fait tout à l'heure, lorsque nous avons vécu d'une façon qui n'est pas cohérente avec votre vie nouvelle en lui. Donc la première étape du renouveau spirituel, c'est la repentance. La seconde étape, l'intercession. La dernière étape dans notre récit, c'est la reconnaissance. Je serai bref sur ce dernier point. À bien des reprises dans la Bible, lorsque Dieu a accordé sa délivrance, l'homme est invité à célébrer cette délivrance par la reconnaissance. Cette reconnaissance, ce n'est pas seulement l'attitude juste envers la délivrance reçue. Ce n'est pas seulement le fait que, bah oui, c'est normal de dire merci à Dieu quand il a fait quelque chose pour nous, même si c'est vrai. Mais c'est aussi quelque chose qui est profondément bénéfique pour notre vie spirituelle. Et c'est pour cela que Dieu nous demande d'être reconnaissants. Ce n'est pas seulement parce que c'est ce qui est juste, mais c'est parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Pourquoi ? Parce qu'être reconnaissant envers Dieu, bah si on pense au mot reconnaissant, c'est reconnaître que c'est Dieu qui est le Créateur et qu'on est créature. C'est reconnaître que tout ce qui est bon nous vient de lui. Et cette attitude est à la base d'une vie spirituelle heureuse. Plus je suis reconnaissant, moins je risque de me prendre pour mon propre Dieu. Alors évidemment, être reconnaissant, parfois c'est plus facile que d'autres, on le sait. Lorsqu'on vit des circonstances favorables, même si souvent on n'y pense pas à être reconnaissant dans ces moments-là. Mais disons que c'est peut-être plus facile de remercier Dieu lorsque quelque chose s'est passé comme on l'espérait. C'est plus difficile lorsqu'on vit des circonstances compliquées et parfois très douloureuses. Pourtant, la Bible nous invite à être reconnaissants même dans l'épreuve. Alors, est-ce que c'est une sorte de méthode couée, comme on dit, c'est un déni de la réalité ? Pas du tout. Il s'agit simplement de reconnaître, même quand la vie est difficile, que Dieu nous a déjà donné ce qu'il y a de plus magnifique. Il a déjà fait l'inimaginable en notre faveur, en nous donnant Jésus-Christ. Dans notre récit, le peuple d'Israël est reconnaissant parce que Dieu lui a accordé la victoire. Et Samuel, le prophète, a un réflexe intéressant. Il dresse un mémorial qu'il appelle Ebenezer, pierre du secours, verset 12. Et à nouveau, au verset 17, on voit qu'il bâtit un autel pour le Seigneur. Et dans la mesure où la victoire que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ est plus grande encore que celle qu'il a accordée aux Israélites, bien plus grande, on peut se demander quel est notre Ebenezer. Est-ce que nous avons un mémorial, quelque chose qui nous aide à nous rappeler le secours de Dieu ? Et la réponse est oui. Et il y a un exemple évident et qui est sans doute primordial, c'est Jésus qui l'a institué pour nous. C'est le repas de communion, la Sainte Cène, où on prend le pain et le vin en souvenir de lui. C'est en quelque sorte notre Ebenezer, notre pierre du souvenir, si on veut. Ce n'est pas une pierre, c'est un repas du souvenir. Et ce mémorial est important, c'est une aide visuelle et aussi une aide sensible qui fait appel au sens. On pourrait dire une aide gustative même pour la Sainte Cène, une aide pour notre mémoire qui nous aide à garder les yeux fixés sur lui, qui nourrit notre foi et notre espérance et que nous vivons aussi ensemble en signe d'unité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Dieu nous donne une aide visuelle et une aide pratique. Il ne nous dit pas simplement des vérités, mais il nous aide à nous en rappeler par ce geste de la Sainte Cène. On ne va pas prendre la Cène ce soir, on le fait un dimanche sur deux, ce sera dimanche prochain, mais c'est quelque chose que nous faisons régulièrement, comme il nous a demandé de le faire, pour nous rappeler l'œuvre faite en notre faveur. Mais je voudrais nous inviter aussi à réfléchir peut-être, pour chacun d'entre nous, dans nos vies individuelles, peut-être à des manières concrètes dont nous pouvons nous aider à nous rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie. Et là, je crois que Dieu est extrêmement créatif et que ça va dépendre de chacun. Il y a peut-être quelque chose que je peux écrire ou créer, peut-être pour ceux qui ont la fibre artistique ici. Peut-être un lieu où je me retire parfois pour me rappeler la bonté de Dieu. Des choses qui nous aident à nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Alors, comprenez-moi bien, il ne s'agit surtout pas de tomber dans la superstition ou d'avoir un fétiche ou quelque chose comme ça. On a bien vu les semaines précédentes l'absurdité que cela représente. Mais posons-nous simplement la question, peut-être de savoir comment nous pouvons aujourd'hui nous aider à nous rappeler la fidélité de Dieu demain. Amen.